Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Radio Vatican. L'actualité de l'Église de cette édition de notre programme, ce sont les nouvelles de l'Église Famille de Dieu qui est au Nigeria, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et l'hommage de la nation congolaise au cardinal Laurent Monsengo Passigna. Tentative d'assassinat manquée du président malien par intérim, le colonel Assimi Goïta, mardi durant le rite musulman de l'Aïd al-Adha à la grande mosquée de Bamako, le colonel Goïta est sain et sauf selon son entourage. Plus de détails dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous informera notamment de ce qui se passe en Afrique du Sud, au Maroc. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican. France et Afrique, Françoise Niémier.
Le Saint-Père a nommé membre de la Congrégation pour les évêques, Monseigneur Ignacio Garcias Cueva, évêque de Rio Rarios. Les musulmans et les chrétiens du Nigeria ont été invités à réfléchir à la nécessité de la paix et de la coexistence pacifique pendant l'Aïd al-Adha célébré cette année le mardi 20 juillet. Notre pays bien-aimé a besoin de nous tous et nous avons tous un rôle à jouer dans le succès du Nigeria en tant que nation. Je vous invite humblement à utiliser ce moyen pour réfléchir à notre besoin commun de coexistence pacifique, de bonne gouvernance et d'autonomisation des jeunes, a déclaré Mgr Emmanuel Badejo du diocèse d'Oyo dans son message rendu public lundi 19 juillet avant la célébration de cette année. Mgr Badejo a appelé les Nigérians à combattre toutes les formes de préjugés, de fausses nouvelles, de discours de haine et de fanatisme religieux et à se joindre à nos dirigeants pour que le Nigeria fonctionne pour nous tous. L'Aïd al-Adha est une fête de grands sacrifices à Allah qui doit se refléter dans notre sacrifice d'amour les uns envers les autres, en particulier ceux qui ne partagent pas nos croyances et notre langue, a encore ajouté Mgr Badejo. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, très attendus dans le pays, se sont ouverts le lundi 19 juillet à Abidjan. Présent à cette cérémonie, le père Emmanuel Wehina, secrétaire général de la conférence épiscopale ivoirienne, a déclaré que l'Église attend une vraie réforme qui prenne en compte la formation humaine intégrale avec un accent particulier sur l'éducation morale et civique.
L'Église catholique, pilier de l'éducation dans le pays, suit de près ses états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Père Emmanuel Wehina, secrétaire général de la conférence épiscopale ivoirienne, présent à cette cérémonie d'ouverture, s'est prononcé sur ses assises. Pour lui, c'est une très belle initiative à saluer parce que, entre-temps, pendant les trois décennies en Côte d'Ivoire, il y a eu des crises qui ont beaucoup impacté l'éducation en Côte d'Ivoire, en particulier le système scolaire. C'est une belle initiative que l'Église catholique salue d'ailleurs l'Église qui était représentée au plus haut niveau avec la présence du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. En ce qui est des attentes, Père Emmanuel Wehina a fait savoir que l'Église attend une vraie réforme qui tienne compte de plusieurs paramètres, non seulement de l'instruction, de la formation, mais également de l'éducation civique. La morale, pour lui, a pris un coup. Il faudrait que dans ces nouvelles réformes, l'accent soit mis sur l'éducation civique à tous les niveaux, particulièrement au niveau scolaire et universitaire. Et ce que l'Église attend, c'est qu'au niveau de l'école, qu'il y ait une formation humaine intégrale, une éducation qui tienne compte de tous les aspects de la vie de l'élève et de l'étudiant. C'est d'ailleurs ce que l'Église, depuis de nombreuses années, essaye de faire dans son système éducatif en Côte d'Ivoire, a soutenu le secrétaire général de la conférence épiscopale ivoirienne. Notons que ces assises sur l'éducation nationale et l'alphabétisation dureront 6 mois et se dérouleront en 3 niveaux de dialogue, le dialogue social, technique et politique. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Notre correspondant au Burkina Faso nous rend compte de la célébration du bicentenaire d'existence des sœurs de Sainte-Marie de Torfou.
La Todin, une des paroisses du diocèse de Kudugu, a accueilli du monde ce 16 juillet 2021 à l'occasion de la célébration des 200 ans d'existence des sœurs de Sainte-Marie de Torfou. En plus de l'ordinaire du lieu, Mgr Joachim Ouédraogo, du président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Laurent Dabiré, évêque de Dori, de l'évêque auxiliaire de Ouagadougou, Mgr Léopold Ouédraogo, c'est l'évêque de Waïguia, Mgr Justin Kiendega, qui a présidé cette Eucharistie d'action de grâce. Cette célébration jubilaire a servi de cadre à six sœurs pour l'émission de leurs vœux perpétuels reçus par la supérieure générale de la dite congrégation. Il s'agit des sœurs Jacqueline Kabore, Marie-Madeleine Kankouan, Elodie Ouédraogo, Marie Savadogo, Thérèse Savadogo et Jacqueline Zidouemba. Leur aînée sœur Cécile Kiendega y a aussi renouvelé ses vœux à l'occasion de son jubilé de 25 ans de vie religieuse. Avec ses 7 élus du jour et toutes les anciennes élèves du collège Notre-Dame du Mont-Carmel, gérées par les sœurs de Sainte-Marie de Torfou, anciennes élèves venues nombreuses pour rendre grâce, fidèles et invités ont vraiment jubilé. Paul Dawagadou pour Radio Vatican.
Décédé le 11 juillet dernier à 81 ans à Versailles en France, l'archevêque émérite de Kinshasa en République démocratique du Congo, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, a reçu mardi 20 juillet les hommages de toute la nation congolaise à travers une messe solennelle célébrée à l'esplanade du Palais du Peuple par son successeur, le cardinal Fridolin Ambongo, à l'issue de laquelle le président congolais Félix Tshisekedi a décoré à titre posthume le défunt cardinal chevalier des ordres nationaux. Dans la suite de notre série d'hommages au cardinal Monsengo, nous vous proposons l'entretien que nous a accordé le père jésuite Paul Béré, enseignant d'écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome. Le père Béré est l'initiateur et le premier directeur de la chaire cardinal Laurent Monsengo Passigna. On l'écoute.
Il me souvient l'avoir personnellement rencontré en 2005 à Kinshasa parce que l'Association des exégètes catholiques d'Afrique avait organisé un congrès pour célébrer le jubilé d'argent du cardinal Laurent Monsengo. À l'époque, il n'était pas encore cardinal. Voilà le point de départ de ma rencontre avec lui. Depuis lors, on est restés très en contact l'un et l'autre. Donc ça évoque pour moi aussi une dimension de grande proximité.
En 2005, vous faites donc connaissance avec le cardinal Laurent Monsengo. Mais en septembre 2015, à l'ITCJ, l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus à Abidjan, Côte d'Ivoire, vous organisez des conférences cardinal Laurent Monsengo.
Quand en 2005, j'étais encore doctorant à l'Institut biblique, il avait aimé ma fougue à Kinshasa. Et pour cette raison, nous sommes restés en contact et nous avons souvent travaillé quand il passait à Rome. Et en 2008, lorsqu'il a été nommé par le pape Benoît XVI pour le secrétariat spécial du synode des évêques sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église, il m'a téléphoné pour me demander de venir l'aider comme secrétaire particulier. Et nous avons travaillé presque un mois ensemble, côte à côte. Et ça m'a donné de le connaître un peu plus, du point de vue de sa compétence comme exégète. Et je dis en passant que c'est le premier docteur de sciences publiques africain de l'Institut biblique pontifical ici à Rome. Il a défendu sa thèse en 1971. Et donc, cette proximité entre des générations que des décennies séparent, cette expérience m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu la facture intellectuelle qu'il avait. Et quand je suis allé en Côte d'Ivoire en mission à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus comme professeur d'écriture sainte, ben j'ai voulu quand même qu'on se souvienne de ceux qui nous ont devancés. C'est ainsi qu'en 2015, nous avons commencé les conférences cardinal Laurent Monsengo Passigna pour donner un modèle à ceux que nous voulions former dans notre département de Bible, à l'ITCJ en particulier, et en Afrique en général. Mais une année après, l'évaluation nous a confirmé qu'il fallait en faire une chaire. Et donc, c'est devenu une chaire, cardinal Laurent Monsengo. Dans le cadre de cette chaire, invité des professeurs venus du Canada, de l'Europe, notamment de la France, de la Belgique, de l'Italie, de la RDC, du Bénin, etc. Des professeurs de très haut niveau qui sont venus, et je crois qu'ils étaient davantage attirés par la personnalité du cardinal Monsengo. Donc ils sont venus parce qu'ils connaissaient l'homme et sa haute facture. Ils se sont préparés en conséquence. Les textes qu'ils ont proposés là-bas étaient des textes d'un très très haut niveau exégétique. Le cardinal était là à l'inauguration, le 30 septembre 2015. C'était la première institution de ce genre qui portait son nom. Et il faudra dire qu'à Kinshasa, des années plus tard, s'est créée une chaire cardinal Laurent Monsengwo, mais après celle d'Abidjan. Ça ne fait que manifester la reconnaissance que l'Afrique elle-même voudrait offrir à ses propres enfants. C'est-à-dire, notre génération a voulu montrer au cardinal Monsengwo que nous avons été sensibles à sa contribution au niveau scientifique, aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Et au niveau pastoral, car il a travaillé énormément à la promotion de l'apostolat biblique. Personnellement, je suis sensible au fait que en Afrique, nous avions tendance à détruire tout ce qui a été fait avant nous. Et je me suis dit, il faudrait que nous apprenions à nos étudiants à construire sur ce qui a été fait avant nous. Mais pour le faire, il faut savoir quels sont ceux qui ont construit avant nous. Reconnaître les personnes et reconnaître leur œuvre dans le double sens de savoir et de gratitude.
Et quelle avait été sa réaction?
Il était très heureux. J'ai rassemblé tous les textes et puis j'ai ajouté d'autres. À l'occasion de ses 80 ans, j'ai fait un livre en coédition avec l'ITCJ et l'Institut public ici à Rome. Le livre lui est parvenu l'année dernière et il était très très heureux. Et le savoir parti aujourd'hui, je trouve que c'est l'esprit qui nous a inspiré de faire ce livre et qu'il voit le livre et qu'il voit comment ses efforts portent du fruit. La graine semée pousse et porte du fruit. Il en était heureux.
Cardinal Laurent Monsengwo Passigna, une figure à enseigner.
Je ne parlerai pas d'enseigner au sens académique du terme, je parlerai de modèle. C'est-à-dire offrir à nous autres et à ceux qui viennent après nous un modèle à imiter. Un modèle qui doit nous stimuler. Un modèle qui doit nous émuler. De sorte qu'en Afrique, on n'accepte pas la médiocrité.
Père Paul Béret, si on vous demandait de nous dire ce que vous retenez du cardinal Monsengwo en trois mots.
Je dirais la rigueur, l'intégrité et la simplicité.
Votre mot de fin.
Moi, je dirais, n'oublions pas ceux qui nous ont devancés et qui ont aidé à construire l'Église et la société. Si nous perdons la mémoire de ces hommes-là, je pense que nous ne saurons pas dans quelle direction avancer.
Le père jésuite Paul Béret, enseignant d'écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome. Il est l'initiateur et le premier directeur de la chaire cardinal Laurent Monsengwo Passigna.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Deux personnes ont tenté de poignarder le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, mardi matin durant le rite musulman de l'Aïd al-Adha à la grande mosquée de Bamako. Mais celui-ci est sorti sain et sauf selon son entourage. Et c'est après la prière de l'Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice, alors que l'imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée pour égorger le mouton que les faits se sont déroulés. Présent sur les lieux, le ministre des Affaires religieuses, Mamadou Kone, a expliqué qu'un homme a tenté de tuer le président de la transition avec un couteau dans la grande mosquée de Bamako. Mais il a été bien maîtrisé avant de commettre son forfait, a-t-il ajouté. C'est une autre personne qui a été blessée, a indiqué Latou Sotouré, régisseur de la mosquée. Toujours au Mali, le mandat d'arrêt international qui vise l'ancien député malien Karim Keïta, fils aîné de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en 2020 par un coup d'État dans une enquête sur la disparition d'un journaliste, a pour fondement une circonstance politique, ont dénoncé lundi ses avocats. L'état-major des armées du Burkina Faso a annoncé mardi la mort de 3 soldats burkinabés et un supplétif civil de l'armée. Ils ont été tués vendredi par l'explosion d'engins artisanaux dans le nord du Burkina Faso selon l'état-major qui assure que des dizaines de terroristes ont été neutralisés le même jour lors d'une opération des forces de sécurité. Le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma dans une affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans reprendra le 10 août, a déclaré mardi le juge Pierre Cohen lors d'une courte audience en ligne. Le procès avait repris lundi, mais les avocats de M. Zuma avaient plaidé que la virtualité des audiences privait leurs clients de ses droits constitutionnels, notamment de la possibilité de consulter son équipe de défense.
Radio Vatican, France et Afrique. Françoise Niamier.
La vaccination anti-coronavirus va être ouverte à tous les adultes en Tunisie mardi et mercredi, jour de fête religieuse, a annoncé lundi le ministre tunisien de la Santé, tandis que des cliniques privées sont réquisitionnées pour appuyer les hôpitaux débordés. La Tunisie, dont les stocks de vaccins sont restés jusqu'à récemment limités, n'a complètement vacciné que 913 000 personnes, soit environ 8% de sa population, un taux qui reste malgré tout parmi les plus élevés d'Afrique. Des médecins congolais ont décidé lundi de durcir leur mouvement de grève en réduisant sensiblement pendant 7 jours le nombre d'hôpitaux devant recevoir uniquement des cas d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, selon leur syndicat, le Syndicat national des médecins du Congo. Dans un autre registre, le parc national de Salonga, le plus grand de la République démocratique du Congo, a été retiré lundi de la liste du patrimoine mondial en péril, en reconnaissance des efforts entrepris pour le préserver, a affirmé l'UNESCO dans un communiqué. Un tribunal de Casablanca a condamné lundi le journaliste et défenseur des droits humains Omar Radi à 6 ans de prison dans une double affaire d'espionnage et de viol, un verdict dénoncé par plusieurs ONG.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Place à présent à Donatien Nyembo pour le magazine sur le développement.
Magazine sur le développement concerne aujourd'hui les systèmes adoptés entre 130 pays sur la taxation des multinationales qui dégagent une voie pour une conclusion finale des négociations en octobre. Le texte prévoit un taux d'au moins 15%, mais des dérogations sont prévues. Cela permettra par exemple au pays de continuer à encourager l'installation effective d'activités et non des seuls sièges sociaux par des avantages fiscaux. Ou encore aux pays en développement de toujours bénéficier des avantages de leurs conventions fiscales avec d'autres États. Selon les termes actuellement prévus, une centaine de multinationales sont concernées par la réallocation d'une partie des impôts qu'elles paient vers le pays où elles réalisent effectivement leurs activités. Mais un élargissement du nombre d'entreprises concernées sera possible au bout de ce temps. De même, l'accord ouvre la voie à ce que davantage de petites économies puissent bénéficier d'une partie de l'impôt sur les bénéfices ainsi redistribués. Ces mesures ont permis de rallier par exemple in extremis l'Argentine, la Turquie ou encore l'Inde, mais elles sont jugées insuffisantes par l'ONG Oxfam qui estime que l'accord reste très favorable aux pays riches. L'accord est très bon pour les pays en développement, il y a des avancées majeures pour eux, défend à l'inverse Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Les participants se sont donnés jusqu'au mois d'octobre pour finaliser tous les éléments techniques et convaincre les pays encore hésitants. Leur déclaration vise une mise en application en 2023. Sur les 139 États participants aux négociations, 9 ne se sont pas ralliés à la déclaration finale, à savoir l'Irlande, la Hongrie, l'Estonie, le Pérou, le Nigeria, le Kenya, le Sri Lanka et Saint-Vincent et les Grenadines. Parmi le Pérou qui s'est abstenu en raison de la crise politique dans ce pays, les autres, en particulier la Barbade et Saint-Vincent et les Grenadines, pratiquent de faibles taux d'imposition pour attirer les multinationales. Le Nigeria et le Kenya ont estimé insuffisantes les garanties offertes aux pays en développement. Côté européen, l'Irlande, dont le taux d'impôt est de 12,5%, a notamment fait part de réserves. Le ministre de Finances Pascal Donohoe a toutefois assuré soutenir dans l'ensemble le processus des négociations. La Hongrie, pour sa part, rejette le taux de 15% jugé bien trop élevé et une entrave à sa croissance économique. Même si l'accord conclu jeudi est beaucoup plus détaillé que ce qui était espéré, de nombreux paramètres restent à préciser. Le plus significatif est le niveau exact du taux. Il est actuellement mentionné à au moins 15%, mais de nombreux États ne veulent pas d'un taux supérieur. Certains points techniques autour des exemptions et dérogations restent aussi ouverts à la négociation. Rappelons qu'à moins d'un mois après le G7 et après des années de négociations, 130 pays se sont mis d'accord jeudi pour mieux taxer les multinationales avec notamment un taux minimum d'impôt sur les sociétés d'au moins 15%. Après des années de travaux et de négociations intenses, ce paquet de mesures historiques garantira que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part d'impôts partout dans le monde, a déclaré Matthias Cormann, le secrétaire général de l'Organisation de développement et de coopération économique qui pilote ces négociations. L'ensemble de pays signataires représente 90% du produit intérieur brut mondial. Les sociétés multinationales ne pourront plus opposer les pays les uns aux autres dans le but de faire baisser le taux d'imposition et de protéger leurs bénéfices au détriment des recettes publiques, a réagi le président américain Joe Biden dans un communiqué. Ces entreprises ne pourront plus éviter de payer leur juste part en cachant les bénéfices générés aux États-Unis ou dans tout autre pays dans des juridictions à fiscalité plus faible.
Marie-Josée Mondo-Boisboileau nous présente la rubrique consacrée à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux.
Commençons notre rubrique par la journée œcuménique internationale de la jeunesse sur le rôle des chrétiens en matière de protection de l'environnement. Alors que les effets des changements climatiques s'intensifient au fil du temps, les enfants et les jeunes sont confrontés aux conséquences de nos actes. Cette année, le Conseil œcuménique des Églises organise un événement en ligne pour célébrer la Journée œcuménique internationale de la jeunesse afin de permettre aux jeunes de discuter de ce problème. Avec la Journée internationale de la jeunesse, la communauté internationale reconnaît et célèbre de manière délibérée et proactive les contributions essentielles des jeunes dans l'Église et la société, a déclaré Joy Eva Ball, directrice du programme du Conseil œcuménique des Églises pour l'engagement des jeunes. L'événement organisé cette année par le Conseil œcuménique des Églises, qui a pour thème « La justice climatique », offre aux jeunes des Églises membres et des partenaires œcuméniques une tribune commune qui leur permettra de s'approprier leur place dans le mouvement œcuménique. Le Conseil œcuménique des Églises a lancé la Journée œcuménique internationale de la jeunesse en 2019 pour la première fois depuis 10 ans. En 2020, les jeunes avaient exploré des sujets très préoccupants tels que l'industrialisation, les conflits des générations, les modes de vie modernes, la COVID-19, l'urgence climatique, les attentes culturelles et la migration, dans la perspective de leurs répercussions sur la santé mentale. En 2021, les jeunes des églises membres et des partenaires œcuméniques prendront les commandes des médias sociaux du Conseil œcuménique des églises pour montrer le caractère intersectionnel du thème des changements climatiques. Il invite les jeunes à participer à cette initiative en proposant du contenu pour qu'ils puissent prendre les commandes du programme du 12 août, notamment idées, messages, vidéos, photos, chants et danses. Le symposium co-organisé par le Conseil œcuménique des Églises et l'Association mondiale pour la communication chrétienne porte sur l'impact de la transformation numérique sur les communautés et les sociétés. Des recherches, des expériences vécues dans différentes régions et au sein des communautés marginalisées, des contributions d'experts sur les tendances économiques et politiques, ainsi qu'une réflexion éthique et théologique constituent une contribution à la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises prévue pour septembre 2022. L'objectif du symposium est d'explorer les défis de la communication numérique sous l'angle de la justice sociale et d'identifier les possibilités d'action concertées et conjointes avec les communautés de foi et entre les organisations religieuses de la société civile, universitaire, médiatique et technologique. Un élément clé du symposium est d'entendre comment les communautés du monde entier vivent les opportunités et relèvent les défis du numérique. Les organisations, églises, groupes, médias communautaires et autres réseaux communautaires sont invités à faire part de leurs expériences. C'est dans le contexte de la pandémie de COVID-19 que le comité exécutif du Conseil œcuménique des Églises s'est réuni jeudi 15 juillet par visioconférence afin de suivre la planification de la 11e assemblée du COE qui aura lieu à Karlsruhe en Allemagne en 2022. L'organe directeur du Conseil œcuménique des Églises évalue la situation concernant la pandémie de COVID-19 en tenant compte du contexte mondial et de celui du pays hôte, l'Allemagne. Il examine les risques liés à la tenue de l'Assemblée. Le comité exécutif donne également suite au dossier traité lors de la réunion qui a eu lieu du 17 au 20 mai 2021 en actant les décisions récentes prises au sujet du projet de construction du village vert et les mesures relatives au budget révisé pour 2021.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivie en notre compagnie. À très bientôt.
Et mes paroles, par mes œuvres et mon témoignage, par mes choix et par ma foi, je veux annoncer, Seigneur, ton évangile. Et par ma foi, je veux annoncer, Seigneur, ton évangile. Comme Pierre, comme Paul, sur les routes de Galilée, je veux aussi proclamer que ton règne est arrivé. Appeler et crier à temps et à contre-temps, que le jour du salut s'est levé.